Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute!
Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocate. Podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie, exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, notre podcast accueille un invité hors du commun, Nicolas Moureau. Non pas avocat, mais entrepreneur visionnaire. Diplômé de Sciences Po et de l'ESSEC, son parcours varié entre stratégie, entrepreneuriat et droit lui confère une perspective unique. Nous découvrons comment Nicolas fusionne passion politique, compétences transversales et expertise juridique pour redéfinir le succès. Découvrez comment Nicolas a insufflé un vent de nouveauté chez LX Avocat et comment il envisage l'avenir de cette structure innovante. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tonti-Bernard et Nicolas Moureau.
Eh bien écoute, bonjour Nicolas Moureau, je suis ravi de te recevoir ici. Donc, toi, tu es le directeur de la stratégie de LX Group.
Alors, directeur exécutif.
Directeur exécutif, pardon, excuse-moi. Directeur de la stratégie avant, puis directeur exécutif. Ouais. J'ai mal fait mes devoirs. Et aujourd'hui, tu travailles pour un groupe qui est le groupe LX Group, qui détient LX Avocat, ex-Lex-Avoué. Donc tu n'es pas avocat, et c'est pour ça que ça me plaît. Habituellement, je reçois que des avocats. Mais moi, je prône l'entreprise d'avocats, dirigée par des non-avocats, mais détenue par des avocats. Et du coup, tu en es le parfait exemple. Salut Nicolas.
Salut Valentin, je suis ravi d'être là. Je suis ravi de répondre à tes questions et d'avoir cet échange.
Alors, est-ce que tu peux m'expliquer qui t'étais avant de prendre, pas les fonctions actuelles que tu as, mais celles que tu avais avant, qui t'étais avant de rentrer au sein de ce cabinet d'avocats?
Alors, du coup, j'ai un parcours assez classique de consultant en stratégie. Ça, on va bien se comprendre. J'ai fait Sciences Po et ensuite l'ESSEC. Ensuite, j'ai fait 7 ans de conseil en stratégie. Donc ça, c'était top parce que ça m'a permis de voir plein de secteurs différents, de comprendre un peu le fonctionnement des entreprises. Au bout de ces 7 ans, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie forcément d'aller dans la dimension commerciale des cabinets de conseil, donc devenir partenaire, etc. J'ai quitté mon deuxième cabinet qui s'appelait Simon Cusher & Partners. Un, parce que j'étais très engagé en politique à ce moment-là, c'était la présidentielle 2017. Enfin, on était fin 2016, donc j'avais besoin de temps pour le faire. Et aussi parce que j'étais en train de créer une boîte événementielle que j'ai toujours à côté. C'était mon, j'avais ma petite envie entrepreneuriale et du coup, je l'ai assouvie. Donc, la boîte marche toujours. Donc, voilà, consultant, puis entrepreneur. Et c'est là que le droit... bon, j'en ai déjà fait un peu à Sciences Po, mais c'est là que le droit est apparu dans ma vie professionnelle. LexisNexis, donc l'éditeur juridique, m'a contacté pour prendre en charge le marketing d'un certain nombre de marchés. Et c'est marrant, enfin, j'avais aussi été contacté par une GAFA pour m'occuper aussi du marketing. Et étonnamment, pour certains, j'ai choisi LexisNexis. Et en fait, tout ce qui drive dans ma vie mes choix professionnels, c'est vraiment les gens que je rencontre. Et finalement, je me suis hyper bien entendu avec les gens que j'ai rencontrés chez LexisNexis pendant mes entretiens. Je sentais une volonté de bosser ensemble qui était forte. Et du coup, bah, je les ai choisis. Et c'est comme ça que le droit est rentré dans ma vie professionnelle. Et voilà, donc parcours consulting, entrepreneuriat, marketing, stratégie. Et j'ai rejoint Elix, qui s'appelait Lexavoo à l'époque, en 2019, donc il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Et c'est comme ça que... Donc c'est pareil, ils sont venus me chercher en me disant, on a besoin... Au début, ils m'ont dit, on a besoin d'un business developer. J'ai dit, alors moi, par contre, c'est pas ce que je fais, mais je peux vous expliquer... Moi, je fais plutôt de la stratégie d'entreprise, mais je vais vous expliquer ce que c'est. On s'en est parlé, on me dit « Ah oui, bah, c'est ça qu'on veut, en fait. » J'ai dit « Bah, parfait. » Et du coup, le parcours de recrutement a duré assez longtemps parce que je voulais vraiment qu'ils comprennent ce que c'était la stratégie d'entreprise. Et on sait que bah, le métier d'avocat, ils sont très bons bah, en droit, mais en business, bah, forcément, c'est moins, ils n'ont pas de formation sur ces sujets-là, donc je voulais être sûr qu'eux ne se trompent pas en choisissant et que moi, je ne me trompe pas en les choisissant.
Et c'est super intéressant ce que tu dis, je rebondis immédiatement là-dessus avant qu'on puisse replonger un petit peu dans ton parcours et ce que tu as fait avant pour essayer de comprendre en fait quelles sont tes valeurs ajoutées, quelles sont tes skills et ce sur quoi tu as pu bosser, pardon, quelles sont tes compétences et ce sur quoi tu as pu bosser.
Alors, on ne va pas jargonner.
exactement, tout à fait. Moi, il y a un truc qui m'a choqué et c'est pour moi l'une des explications pour lesquelles les cabinets de conseil traditionnels n'arrivent pas réellement à rentrer sur le marché des avocats. C'est que les avocats et les cabinets ont vidé de sens, ou en tout cas ont vidé de sens les titres qu'on a dans l'entreprise traditionnelle. Un secrétaire général au sein d'un cabinet d'avocats n'a pas le rôle d'un secrétaire général au sein d'une boîte de taille importante. Un directeur général, un directeur des opérations, un directeur du marketing, un directeur des ressources humaines a un titre qui est celui de l'entreprise, mais ne possède pas les mêmes compétences et les mêmes tâches qu'au sein de l'entreprise. Et ça, nous, ça nous a au début mais complètement perdu. On était là, mais attends, secrétaire général sur le papier, mais en fait, elle est juste chef des secrétaires. Et du coup, c'était vraiment difficile à comprendre. Est-ce que toi, tu as vu la même chose un petit peu quand tu bossais chez Lexis? On va bien sûr pas parler de Elix Group pour ça, mais quand tu bossais chez Lexis, est-ce que tu constatais ça aussi?
Ah oui, ça c'était vraiment. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait hésiter avant de rejoindre Elix. Je me suis dit si on me donne un titre, mais que derrière j'ai pas les mains libres pour faire vraiment ce pour quoi on me fait venir. Voilà, c'était mon hésitation, parce qu'effectivement, quand j'étais chez Lexis, les contacts... Alors, quand j'avais finalement beaucoup de contacts avec les avocats, finalement, et les professionnels, et je voyais pas assez peu, finalement, les fonctions support qui étaient reléguées, il n'y a rien de négatif, mais qui étaient vraiment cantonnées, plus que reléguées, sur des périmètres hyper réduits, organiser des événements... Voilà, un côté un peu très chief of staff et pas du tout stratégique. Donc, et souvent, quand on écoute les avocats, pour eux, le marketing, c'est de la communication, en fait. Alors que la communication, c'est qu'une petite partie du marketing. Donc, voilà, je trouve que c'est... Je leur sentais, et c'était aussi le challenge de rejoindre Elix, de leur dire, bah, ils ont l'air d'avoir envie, donc on se fait confiance mutuellement et je vais essayer de les amener vers... vers le monde de l'entreprise, en fait, les accompagner, de leur tenir la main pour... voilà. Ils n'avaient pas besoin de moi. Hein, quand tu es arrivé, le cabinet fonctionnait déjà très bien. Hein, mais en tout cas, de leur apporter un peu de méthodo et de culture d'entreprise.
Très clair. Donc, pour revenir un petit peu sur le début de ton parcours, Sciences Po, ESSEC en grande école jusqu'en 2010.
Ouais.
Après, tu rentres dans un cabinet de conseil. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ce cabinet de conseil? C'est quoi les missions sur lesquelles tu bosses? C'est quoi les compétences que tu acquiers?
Alors, donc, j'ai démarré donc, chez Accenture, qui est le premier cabinet de conseil dans lequel j'ai travaillé pendant 5 ans. J'ai fait plusieurs types de projets. J'ai beaucoup travaillé dans le monde des médias, donc télé, essentiellement, bah, Canal+, hein, c'est pas un secret, c'est écrit sur mon CV. Lancement de nouvelles offres, du repackaging d'offres, très marketing produit. Donc là, j'ai plutôt acquis des compétences en marketing qualitatif. Donc vraiment, voilà, quel est le besoin du client, comment lui répondre, qu'est-ce qu'on doit lui proposer comme proposition de valeur, à quel prix, comment on distribue, comment on communique. Enfin, des choses assez classiques que j'avais un peu appris aussi en école de commerce. Mais bon, ça, à la limite, c'est anecdotique. Mais et après, j'ai fait pas mal d'autres missions dans le monde de la musique. Après, j'ai fait de la grande conso, de la grande distri. Lancement de stratégies mobiles pour des stratégies de commandes de courses pour un gros opérateur de grande distribution aux Émirats Arabes Unis, programme de fidélité de Nespresso, enfin ce genre de sujet. Et donc finalement, c'était appliquer des compétences que j'avais acquises dans mon parcours académique. Mais en fait, ce qu'on n'apprend pas dans le parcours académique, et c'est ce qu'on apprend, je trouve, quand on est consultant, c'est qu'à 25 ans, on se retrouve directement exposé à un COMEX, à de la direction générale. Et ça, je trouve que c'est ça qui est hyper formateur. C'est qu'on a une semaine pour préparer une propale quand on n'a pas encore vendu sa mission. Et ensuite, on doit délivrer la mission. Et on ne doit pas vraiment montrer au directeur général, qui paye quand même assez cher en général des missions de conseil en strat, qu'on est vraiment... qu'on est là depuis 3 mois. Quoi. Donc, c'est un apprenti... Et en vrai, ça force du coup à se mettre tout de suite au niveau, parce que c'est pas du tout derrière les clients qu'on avait étaient hyper contents, mais ça force tout de suite à se mettre au niveau, et puis ça force tout de suite à être hyper synthétique, parce que les gens que tu rencontres ont pas le temps. Tu prépares 100 slides, en fait t'en montres 3. Mais le fait d'avoir préparé les 100 slides te rend hyper pertinent sur les 3 que tu vas présenter, parce que le DG il a une demi-heure de retard, il a plus que 10 minutes au lieu d'une heure. Enfin, ça apprend quand même une forme d'agilité qu'on n'apprend pas à l'école. Ça apprend aussi à tout de suite être capable de synthétiser, d'être méthodique, de ne pas perdre de temps. Donc finalement, il y a la partie hard skills, c'était plutôt appliquer un peu la stratégie d'entreprise, le marketing, les concepts pour développer des produits qui correspondent aux besoins des clients. Donc, et après, il y a la partie que j'appelle soft skills, mais qui n'est pas si soft que ça quand tu le vis au quotidien, qui est se retrouver avec des gens qui ont 20, 30 ans de bouteille et qui n'ont pas le temps, quoi, et qui ont besoin vraiment de choses hyper actionnables. C'est ça que j'ai appris, moi, vraiment, ce que j'ai adoré.
Moi, je trouve que ce qu'on appelle communément les soft skills, c'est ce qui fait en réalité la différence, parce qu'entre un individu A et un individu B, tous les deux consultants, en réalité, les compétences dures sont les mêmes. La technique sera peut-être différente, la profondeur d'analyse sera peut-être différente, mais la réalité, ce qui fait vendre et ce qui permet de rassurer le client, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Et pour moi, c'est vraiment les compétences qui sont les plus dures soient.
De manière assez étrange, oui. Les hard skills, finalement, elles ne sont pas si compliquées en marketing. Enfin, elles ne sont pas compliquées. Enfin, globalement, tu as quand même un certain nombre de concepts qui ne sont pas si compliqués à comprendre. Ça reste une science... c'est pas une science expérimentale comme les maths ou la physique. Enfin, on est dans quelque chose quand même de comportement du consommateur, ce qu'il attend, ses réflexes. Puis on est tous consommateurs, donc ce n'est pas si compliqué de comprendre les concepts. Mais par contre, tout ce qui est méthodo... Alors, la méthodo, je ne sais jamais si on les met dans les hard skills ou les soft skills, parce que finalement, tu as cette capacité... à synthétiser, à souligner le point qu'il faut, etc. Ça, pour moi, c'est les soft skills. Et après, il y a toute une méthode pour y arriver. Et ça, pour moi, c'est un peu ni hard ni soft. Et c'est ça, je pense, qu'on apprend dans le conseil. Est-ce que viennent finalement chercher les entreprises qui embauchent d'anciens consultants ou les cabinets d'avocats qui les embauchent?
Tu commences à manager un petit peu à cette époque-là?
Oui, bon, au bout de finalement un an et demi, je passe consultant senior au bout de 18 mois, donc je commence à avoir des équipes. Alors au début, 1, 2, 3 juniors, et quand je suis parti en étant manager, j'étais sur 2-3 missions, donc c'est là où ça devient encore plus stimulant intellectuellement, parce que tu es obligé de découper ton cerveau en 6, et je pense que j'avais 10-12 personnes à manager. Ce qui n'est pas si compliqué, on y reviendra après, c'est que quand tu es consultant, tu manages des consultants, tu manages toi 2-3 ans avant. Donc, tu fonctionnes un peu de la même manière, tu es un peu calibré sur le même modèle. Donc finalement, y a une motivation intrinsèque qui fait que c'est assez facile de manager. Je ne trouve pas qu'on apprend tant de management au conseil, on l'apprend plutôt une fois qu'on est en entreprise, où là, on a des profils beaucoup plus variés et c'est positif, parce qu'au moins, on ne pense pas de la même manière, mais du coup, forcément, il faut...
C'est plus dur.
C'est plus dur, ouais.
Ouais, je suis d'accord. Donc, tu fais ce premier cabinet, tu fais le second, tu décides de partir, pourquoi?
Alors, 5 ans dans le premier, 2 ans dans le second, je décide de partir. Alors, il y a 3 raisons. Je pense que le conseil, c'est quand même... Moi, je l'avais vécu comme un super troisième cycle. Et en fait, je trouve qu'il y a trois portes de sortie dans le conseil. Tu fais ta petite expérience de 2-3 ans, et puis après, tu pars en industrie, ou tu as pris la méthodo, etc. Tu pars au bout de 6-7 ans, parce que tu es déjà un peu apte à avoir des fonctions un peu de direction, et tu as un peu une légitimité pour acquérir ces fonctions dans l'industrie, entre guillemets, ou tu pars pas. et parce que tu as envie de développer une dimension commerciale, d'être toujours dans cette énergie, etc. Moi, j'ai choisi la deuxième voie. Pour première raison, je commençais à être un peu frustré de ne pas rester dans les entreprises dans lesquelles je faisais des missions. J'avais l'impression de livrer des choses et après d'un peu de les abandonner et de ne pas savoir si vraiment... après, je le suivais, mais je me sentais un peu dessaisi. J'avais envie de faire un peu plus d'opérationnel, quoi, d'être un peu là pour mettre en œuvre ce qu'on avait préconisé. Et ça, je croyais que je commençais à être frustré par ça. Le deuxième point, c'est que j'avais deux projets qui me tenaient à cœur. L'engagement politique et créer ma boîte qui arrivait sur une opportunité. Et clairement, le conseil ne me donnait pas la bande passante. Alors, désolé, je jargonne. Mais maintenant, chez Elix, tout le monde parle de bande passante. Je suis ravi.
Tous les avocats parlent de bande passante, t'inquiète.
Ça, maintenant, ça va. Je n'avais pas la bande passante pour mener ça de front. Et ça me tenait vraiment à cœur. Je me suis dit, c'est pas grave, tu arrêtes. Tu as quand même 7 ans d'expérience, tu crées ta boîte, tu fais la campagne des présidentielles, et puis après, de toute façon, en mai 2017, tu verras ce qui s'est passé, et en fonction, tu prendras les décisions qui s'imposent.
Si on fait une pause là maintenant, excepté la déontologie et l'histoire des avocats, est-ce que tu vois une vraie différence entre un vendeur de prestations juridiques et un vendeur de conseils ?
Ouais. Pour moi, il n'y en a pas tant que ça, finalement. On vend tous les deux de la prestation intellectuelle. Et souvent, d'ailleurs, quand j'ai fait la première roadmap un peu stratégique pour l'ex-avoué à l'époque, j'ai vraiment essayé d'utiliser un peu des métriques des cabinets experts comptables, des cabinets de conseil, pour expliquer un peu le besoin de concentration, le besoin de partenariat, etc. Et j'expliquais un peu, je leur montrais un peu l'évolution des cabinets de conseil versus l'évolution des cabinets d'avocats, et en leur disant, regardez les cabinets de conseil, c'est vous dans 20 ans, en fait, dans la manière d'appréhender un peu les clients, d'apprendre à faire des propals plutôt que
des conventions d'honoraires,
chez Word, avec ma compréhension de votre contexte, mes atouts pour vous accompagner, les paragraphes classiques d'une propale. Donc finalement, je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Je pense juste que forcément, dans le conseil, il y a un peu plus de liberté, parce qu'on n'est pas une profession réglementée, entre guillemets, avec un concours. Enfin, finalement, tout est un peu plus libre dans le monde du conseil. Donc on n'est pas, en termes de publicité aussi, c'est un peu plus libre, même si je pense que finalement, c'est les avocats qui s'empêchent plus de communiquer.
Ouais, aujourd'hui, c'est relativement free. Hein, même
oui.
par rapport à la seule contrainte qu'il y a, que je vois par rapport au conseil, mais qui se fait quoi qu'il arrive jamais en conseil, c'est qu'on est obligé en tant qu'avocat de pouvoir avoir un honoraire qui va être un honoraire qui n'est pas basé exclusivement sur le résultat. Mais pour moi, c'est la seule diff, parce que derrière, toutes les règles liées à la publicité de l'avocat, en fait, c'est des règles de droit classique
qui
ont été transposées finalement à la profession. Et Macron a fait du bien à tout ça d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et puis je pense qu'il reste quand même un petit un frein plus psychologique et culturel. Et c'est ça qu'on en reviendra après sur Elix. C'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il y avait un vrai ADN d'entrepreneur chez eux. C'est je pense que parfois, pour certains avocats, le marketing, la communication, enfin, c'est pas la hauteur finalement de ce qu'est le métier d'avocat, qui est et en fait. Moi, j'essaie de leur faire comprendre, en fait, c'est juste des outils, en fait. C'est juste des outils pour vous aider à mieux comprendre les besoins de vos clients, à mieux répondre à leurs besoins, puis à développer votre cabinet, en fait. Donc, finalement, je trouve qu'on est vraiment dans une phase où les cabinets d'avocats évoluent, mais pour moi, la matrice derrière commerciale, entre guillemets, est la même dans un cabinet de conseil, dans un cabinet d'avocat. Sauf que, non, pour la dimension B2C, mais c'est-à-dire que quand on va avoir un particulier, c'est sûr qu'un avocat continuera à avoir des clients particuliers, ce qu'aura pas un cabinet de conseil. Mais sinon, dans le B2B, c'est assez classique.
Totalement d'accord.
Donc, tu pars, tu te consacres finalement aux élections présidentielles et tu te consacres à ta boîte. On peut passer peut-être vite là-dessus, mais là, tu as acquis quoi pendant ces périodes-là? Est-ce que tu avais une carrière, entre guillemets, dans le cadre?
Oui,
tu fais du conseil, c'est dans le conseil, etc. Et là, du coup, tu choisis une suite qui est bicéphale. D'un côté, les présidentielles, de l'autre côté, ta société. Et du coup, tu te mets dans le dur, là, un peu.
Ouais, là, ça a été une période quand même assez difficile. Puis, après, on va pas faire ma psychologie, mais... je suis quelqu'un de plutôt anxieux, donc du coup faire un choix de lâcher quand même une trajectoire classique, sécurisante, même si stressante au quotidien, parce que le job de consultant est stressant, mais quelque chose d'assez bordé, c'était pas trop dans mon ADN. Donc il y avait l'envie déjà d'être capable de se faire un peu violence pour dire allez, vas-y, fais un peu ce que t'as envie de faire au moment où t'as envie de le faire, et on verra ensuite ce que ça donne. Donc voilà, ça m'a déjà appris à dire, ok, bah regarde, en fait, tout va bien. Quand on fait des choix, finalement, tout va bien. Donc ça m'a appris plus pour mon développement personnel. Après, la politique, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais c'était plus mon envie d'être sur le terrain des idées. J'ai toujours adoré la politique. J'ai adhéré à un parti politique quand j'avais 16 ans. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de faire évoluer la société. Enfin, d'apporter ma pierre à l'édifice pour faire évoluer la société. J'ai des convictions... Sur des sujets, j'ai envie de participer à l'amélioration de ce qui fait le vivre ensemble. Et donc là, ce que ça m'a aidé aussi à... Ça m'a permis de retrouver quelque chose d'un peu plus littéraire que j'avais moins dans le conseil et qui me manquait. Parce que moi, j'étais sur le pôle idée, donc je rédigeais des argumentaires de campagne que le candidat prenait ou laissait. Mais en tout cas, c'était comme ça que je fonctionnais. Donc du coup, j'ai beaucoup écrit. Pendant cette phase-là.
Une plume et plus un fichier Excel.
Voilà. Bon, une plume, on était des dizaines de plumes, hein, mais tu vois, il y avait des groupes de travail et du coup, on rédigeait. Moi, j'étais sur les thèmes sociétaux. Donc, j'avais fait des notes sur le service civique, sur comment renouer le lien entre les jeunes et la politique et le sens civique, etc. Voilà, je proposais pas mal de choses là-dessus. Et ce qui était sympa, c'est qu'on avait une totale liberté. Après, on faisait des réunions avec le candidat. Et après, on prenait, on laissait, on retouchait, etc. Et ça permettait des contributions au programme. Donc, c'est la partie politique. Ça m'a permis de renouer un peu avec l'écriture. Donc, ça, c'était cool. Parce que ça fait du bien aussi de ne pas faire que des slides de temps en temps. Et voilà. Et par contre, la création de ma boîte, ça, j'ai appris, je pense, énormément, puisque je me suis retrouvé les mains dans le cambouis et moins... Et sur des sujets hyper opérationnels, parce que en plus, c'était un business en dur, hein, c'était un espace événementiel qui est dans le 11e arrondissement de Paris, donc il fallait faire des travaux, acheter des meubles, gérer les retards de travaux, gérer les retards de meubles, gérer l'électricité coupée, on ne sait pas pendant un mois, on ne sait pas pourquoi, enfin, truc un peu classique, et puis apprendre aussi à monter une boîte, apprendre à faire rédiger des statuts par un avocat, les relire, penser à tout, apprendre à avoir un budget un peu serré en se disant faire un business plan, mais faire mon business plan plutôt que le business plan des autres, sur quelque chose de plus petit, sur quelque chose d'un peu nouveau. Je pense que en fait ça m'a rendu encore plus polyvalent que je ne l'étais, et ça m'a aussi donné une résistance au stress supérieur. Parce que finalement, c'était ma boîte, en fait. J'étais très engagé, très stressé quand j'avais des missions de conseil. Et bon, quand tu fais une mission pour une boîte qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires, tu sais bien que tout ne se joue pas à chaque instant, quoi. Alors que quand tu crées ta boîte, tout se joue un peu à chaque instant. Enfin, après, tu peux rebondir, il ne faut pas avoir peur d'échec, hein, mais... Et ça m'a appris ça. Et puis, ça m'a appris à gérer les problèmes au quotidien, de l'humilité.
J'allais poser la question, pas que tu sois pas humble ou quoi que ce soit, mais quand on a une posture de conseil, à chaque fois on est là dans des recommandations, dans des roadmaps, mais on n'applique pas de façon opérationnelle, ou en tout cas pas tout le temps. Quand il y a le budget, on peut le faire, mais quand il n'y a pas le budget, on ne le fait pas. Et du coup, de retourner au faire, tu vois, gérer les problèmes d'électricité, on a eu plein de galères, gérer la vitrification des sols,
gérer la revitrification des sols, parce qu'il y a eu une soirée où il pleuvait. Et ils avaient pris des confettis qui ont déteint sur le parquet, donc gérer en 24 heures une revitrification, ce genre de petites choses.
Ouais. Donc je suis d'accord sur l'humilité.
Ouais, l'humilité, et puis aussi c'est ça, dans le conseil, moi j'ai toujours une posture assez humble, mais t'es aussi quand même obligé d'avoir, comme tu préconises, t'es aussi obligé d'être un peu d'afficher une forme d'assurance, parce que sinon personne ne croit. Et ouais, l'humilité de voilà, enfin au début, bah ouais, je, parfois avant qu'on puisse embaucher, bah on avait personne pour faire le ménage, bah parfois je me retrouve à faire le ménage à 2h du mat après une soirée parce que bah le lendemain matin, il y avait
un autre event
et puis bah au début, bah tu fais tout en fait, tu fais les accueils le matin, on allait bosser, tu fais le ménage le soir et, enfin, on était trois mais bah ça ouais, bah en fait, faut le faire et j'étais content au début de le faire parce que quand j'embauche ensuite des gens, bah je sais par quoi ils passent, je sais la difficulté que c'est de mettre dehors des gens à 1h du matin, enfin de mettre dehors des gens, bah, la soirée est finie. Mais bon, sauf que toi, t'es à jeun et eux non. Donc, du coup, bah, je dis, mais si, viens boire une bière.
C'est où, dans le 11e, on fait un peu de pub, allez.
C'est rue Godefroy Cavignac, c'est métro Charonne. Ça s'appelle okay. Les Rendez-vous.
C'est voilà. Pas loin de chez moi, j'habite au Blurcamp.
Donc, je passe, bah, voilà, je bah, passe, bah, passe devant et organise ton. C'est pour les pros et les particuliers, hein, c'est, okay. Voilà, c'est pour tout le monde.
Très clair. Donc, les élections se terminent, tu continues avec ta boîte. Comment ça se fait que tu vas bosser en tant
chez
que.
Chez Lexnexis.
Ouais, chez Lexnexis, surtout marketing.
Alors, on lance la boîte en février 2017. Et finalement, le truc tourne assez vite, pas tout seul, mais. Globalement, la phase la plus dure, c'était septembre 2016, février 2017. Une fois que tout est en place, je sens quand même qu'il y a une capacité à reprendre un job plus classique. Donc déjà, après, il y avait la capacité et ensuite l'envie. Ça, je vais revenir après sur l'envie. Politiquement, j'ai pas choisi le bon cheval au primaire. Bon, je peux le dire, en tout cas, j'ai pas de.
Oui,
c'était. J'étais dans l'équipe d'Alain Juppé au primaire en 2016. Donc, tout le monde nous donnait favori, mais hop, il s'est passé un truc les trois dernières semaines et pouf. Et du coup, j'ai un peu fait la campagne. Après, j'ai rejoint En Marche, mais de manière un peu plus distancielle. Voilà, j'ai fait un peu la campagne, j'ai fait un peu la campagne de Macron en local, etc. Mais je suis arrivé à un moment où tout était déjà en place dans les équipes, donc c'était moins. Facile et puis voilà, je me sentais moins de m'investir comme je m'étais investi avec les équipes d'Alain Juppé où ça c'était vraiment hyper hyper bien et du coup j'ai décidé je me suis dit, bon voilà, c'était pas ton moment pour continuer là-dedans et en fait moi, ce que je veux pas c'est faire de la politique, hein, de job. J'ai envie que ça reste tout au long de ma vie une passion, un engagement par moment. Là je suis toujours engagé en politique aujourd'hui, mais plus sur le terrain des idées, c'est d'affaire avancer des idées, c'est de, voilà, si il y a 5% de ce que j'ai proposé qui un jour se retrouve dans le programme de quelqu'un, bah tant mieux, j'aurais eu l'impression d'avoir mis un pied à l'édifice, mais j'ai pas forcément envie d'être élu. Après, la vie est faite d'opportunités, mais bon. Donc, et c'est là que j'ai été chassé donc, par une GAFA, je dirais pas laquelle parce que j'y suis pas allé, enfin qu'il soit...
Bon, c'est pas bon, de toute façon, il y a pas de joueur, c'est Google, Amazon, Facebook ou Apple.
Donc, voilà, c'est vrai, ça.
C'est l'un des quatre.
Ça commence par un A,
Si t'as refusé la direction marketing d'Apple, je te frappe.
Non, mais j'étais pas non plus, c'était pas le même job, hein. Okay. C'était pas... Mais, et en fait, donc j'ai eu deux offres. Et en fait, et Lexis. Au début, je me suis dit, bon, en fait, il n'y a pas photo. Si tu veux vraiment retourner dans une trajectoire, chez la GAFA, quoi. Vas-y. Et en fait, les entretiens sont hyper bien passés. Hein. J'ai rencontré des gens très cool. Mais en vrai, je me voyais pas repartir dans une entreprise énorme où j'avais le sentiment que j'allais avoir qu'un petit morceau du. Enfin, j'avais peur que mon impact soit dilué dans quelque chose de trop gros. Et chez Lexnexis, c'est pas une petite boîte, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Combien c'est de. Je sais pas, Lexis, combien on était. Non, je sais plus. Là, j'avoue, j'ai un petit trou de mémoire, mais bon, c'est une boîte qui fait en France peut-être 150 millions de chiffre d'affaires. Entre 100 et 200 millions, quoi, pour pas dire de bêtises. Voilà, où t'es quand même un peu une ETI, où t'es quand même une grosse PME, où tu peux encore. Où t'as accès au CEO en direct, où tu peux vraiment prendre des décisions, etc. Et puis vraiment, j'ai rencontré des gens avec qui j'avais envie de bosser. En plus, il y avait un peu des anciens consultants, donc ça m'a rassuré en me disant, bon, au moins au début, ils vont comprendre un peu ce que je peux apporter en méthodo, etc. Et je ne sais plus ta question, mais ma réponse, en tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi, Lexis. Et oui, ta question, le temps de le faire, et puis peut-être l'envie de se dire, ok, cette boîte tourne, mais j'ai aussi envie de reprendre une trajectoire salariée pour les projets de vie aussi que j'avais à ce moment-là, ouais, et de mener les deux Voilà. Et Lexis était très au courant que j'avais une boîte à côté et était OK pour que je sois que j'ai suffisamment de liberté pour m'organiser et la gérer. Sachant qu'elle me prenait quoi, une demi-journée, un jour par semaine. Donc c'était pas non
plus. Je trouve aussi que, alors je sais pas exactement ce que tu fais dans l'événementiel, mais des fois on peut avoir des manques à certains stades de notre boîte, parce qu'il y a des moments moi, que j'adore. C'est les moments où ça va vite, où tu vends, où tu développes de nouveaux produits, où tu mets en place les process pour que ça puisse tourner. Mais il y a un moment, je vais pas dire que ça tourne tout seul, parce que ça tourne jamais tout seul. Dès que t'es plus là, ça tourne plus, il y a des problématiques, mais en tout cas, ça roule. Et la partie quand ça roule, elle est chiante, parce que tu peux tomber dans une espèce de forme de confort où, en fait, intellectuellement, tu t'éclates plus autant qu'avant. Et en fait, soit t'arrives à te re-challenger, à repartir dessus, et dans ta boîte, tu trouves des trucs qui intellectuellement te font vibrer. Soit en fait, t'y arrives pas, et du coup, il faut regarder ce qui se passe ailleurs.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'était un moment où je me dis, ok, en fait, j'avais donné tellement d'énergie sur cette phase de création que quand j'ai vu que ça tournait, j'avais aussi envie de marcher sur deux jambes, quoi, d'avoir ma jambe retournée dans une boîte avec plus de moyens où je pouvais aussi avoir un peu des perspectives un peu plus fortes, tout en développant ma boîte. Et en fait, je trouvais que l'un entretenait l'autre parce que les réflexes que j'ai acquis en étant entrepreneur, bah, ça me faisait aussi peut-être un peu parfois bousculer les gens chez Lexinexis, parce que bah, j'avais une capacité un peu, quand t'es entrepreneur, t'es obligé d'aller vite, en fait. Tu peux pas, et du coup, bah, de donner à une boîte que j'ai adorée, mais qui a forcément plus de process, plus de lourdeur, comme toute entreprise, dès que t'atteins une certaine taille critique.
Carrément.
Je pense que c'est ça qui, dans mon profil, intéresse aussi les boîtes, c'est d'avoir cette expérience entrepreneuriale qui m'ancre quand même. Qui manque dans le sol.
Ok, donc tu décides d'aller chez Lexis, ultra bon fit, tu vas à la direction marketing, tu fais quoi, tu restes combien de temps, qu'est-ce qui se passe?
Donc j'y reste 2 ans, j'étais donc sur plusieurs marchés, j'étais d'abord sur le marché des experts comptables et des juristes d'entreprise, ce qui était hyper intéressant parce que Lexis n'était pas leader sur les juristes d'entreprise, donc il y avait vraiment c'était un peu une terre de conquête, et j'étais aussi en transverse en marketing stratégique, mais sur tous les sujets d'intelligence artificielle et tous les nouveaux produits, ce qu'on appelait Next Gen à l'époque, tous les produits qui avaient datent un peu, mais à l'époque, c'était en 2017, on disait Next Gen, et après ça a changé, enfin bref, le côté innovation, innovation au service du droit, donc vraiment, je participais vraiment, alors qu'est-ce que je faisais? Je développais la stratégie sur un certain nombre de marchés, sur les nouveaux produits, les nouveaux services, le pricing, comment un peu mettre tout ça en ordre de bataille, et plus du marketing produit en se disant, ok, aller interviewer les avocats, les notaires, les experts comptables, les juristes pour comprendre leurs besoins, et derrière, essayer de développer des outils qui sécurisent les dossiers et qui leur font gagner du temps et qui leur permettent d'apporter de la valeur ajoutée aux clients, le tout dans un environnement concurrentiel assez dense avec toutes les legal tech. Donc, à la fois, c'était marrant parce que parfois on avait plus de moyens que les legal tech, mais moins d'agilité. Donc, c'était aussi comment.
Et puis, il y a des groupes super forts sur le secteur. Tu as Dalloz qui est quand même historique, donc sur l'outil moins puissant que vous, mais tu as Septéo en face, tu as Walter Slover. Là, tu as Doctrine qui arrive avec Submit et Peugeot Invest au capital et qui vont quand même aller chercher des parts de marché. Tu as le groupe qui m'a racheté, Xellia, qui attaque aussi. Donc, c'est un environnement extrêmement restreint et ultra concurrentiel.
Ouais, et surtout, ultra concurrentiel. Et en fait, la force de Lexis, il y a 2 segments, en gros, dans l'édition juridique. Il y a le Legal Info et le Workflow Solution. Workflow Solution, c'est le logiciel. En gros, et là, le gâteau continue à grossir parce que les taux d'équipement sont quand même pas encore ultra élevés. Donc, il y a encore on va jargonner un peu du white space, de l'espace. Il y a encore des parts de marché, enfin, il y a encore des clients qui sont pas du tout équipés. Donc, il faut aller chercher. Donc, sur le logiciel, et clairement, Lexis est pas leader sur le logiciel. On a Septéo, il y a plein d'acteurs comme ça. Et sur le legal info, où Lexis est plutôt leader, ou suivant les marchés, premier ou deuxième. Le secteur est un peu flat, c'est-à-dire que la croissance, tout le monde est équipé, et puis à un moment, une fois que tout le monde est équipé, c'est compliqué. Et je crois qu'on arrive à un moment où il fallait justement dépasser un peu, avoir les produits de la génération d'après pour pouvoir grossir, parce que là, finalement, les bases de données documentaires, avec un peu des systèmes experts à l'intérieur, etc., des modèles d'actes, etc., ça y est, tout le monde est à peu près bien équipé à la hauteur de son dont il a besoin. Finalement, on se rend compte que Doctrine et les autres sont des très bons outils et Predictis, par exemple, qui est un super outil, sont assez complémentaires finalement de Dalloz, de Lexis. Donc finalement, la croissance, elle se fait plus sur, je prends un outil un peu classique de Doctrine, qui n'est pas Doctrine d'ailleurs, mais Lexis ou Dalloz, et ensuite je m'équipe vraiment d'outils plus IA, plus analyse de la jurisprudence, etc. Mais on arrive un peu à un moment où c'était un peu flat, et c'était ça qui était intéressant. Et je ne sais plus ta question, mais...
Non, mais c'est ce que tu fais, ce que tu trouves, et ouais. Tu as parfaitement répondu à la question.
Voilà, ce que j'y trouve, c'était qu'on arrivait à un moment où il se passe des choses dans le monde du droit. Donc c'est pour ça que j'y suis allé.
Et en plus, avec un avantage concurrentiel fort, parce qu'aujourd'hui, tu as raison, Lexis, ils sont soit premier, soit deuxième en fonction des marchés, mais derrière, vous avez du coup une base client qui est colossale et un contact direct avec les décideurs de cabinet d'avocat qui est ultra important. Cabinet d'avocat, direction juridique, expert comptable, notaire, etc. Et donc ça veut dire que l'accès à ces décideurs-là, c'est quand même le point le plus dur à avoir quand tu veux aller vendre de nouveaux produits. Et du coup, l'upsell sur vos services, il devait être super intéressant.
Oui, puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vraie collaboration avec eux. C'est-à-dire que les avocats sont aussi auteurs dans les revues. Enfin, il se passe vraiment il y a vraiment une interaction. Il y a finalement des points de contact multiples. Et le contact est facile. En plus, moi, j'ai pas fait de droit, mais j'avais quand même. Enfin, si j'en ai fait, Sciences Po, que je dise ça. Mais non, mais j'ai fait du droit, donc j'arrivais quand même. Avec une approche pas uniquement stratégie business commerciale.
Tu savais parler latin aussi, quoi.
Je pouvais parler latin, je pouvais dire dominus litis. Enfin, voilà, j'étais affectio societatis, et tout ça, j'étais capable. Mais du coup, je trouve qu'il y a vraiment, oui, il y a vraiment un contact direct qui était hyper sympa. Et il y avait une co-construction. C'est ça qui est sympa, c'est que tu as besoin de tes clients pour construire, ce qui n'est pas forcément le cas dans du B2C. Enfin, tu en as besoin, mais tu fais des panels et après, tu fais ton truc. Là, sur de la prestation intellectuelle, sur vendre des outils qui vont permettre à des gens d'améliorer leur prestation intellectuelle, de l'augmenter, pas au sens financier, mais d'augmenter la qualité de leur proposition de valeur, tu dois co-construire avec eux. Et ça, c'est vrai que c'était chouette.
Très chouette. Là, du coup, tu t'approches du monde juridique avec LexisNexis et là, tu tombes complètement dans une entreprise juridique. Tu arrives chez anciennement LexAvoué et aujourd'hui Elix Avocat et toi, notamment, Elix Group. Est-ce que tu peux m'expliquer, non pas comment tu y arrives, ça tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est une histoire de rencontre, tu as été chassé, etc. Mais surtout, ce que tu vas y faire, comment est-ce que tu vas le faire et comment est-ce que tu arrives finalement à faire bouger ce qui peut s'apparenter à un paquebot, parce que il y a quand même pas mal d'avocats, je crois que vous êtes à peu près 150.
Il y a 70 avocats et 150 personnes en tout.
150 personnes, il y a 23 bureaux présents sur le territoire national. Comment on fait bouger ça?
Alors, la manière dont je l'ai fait, quand on a discuté pendant toute la phase de recrutement, je leur ai dit en fait j'arrive et sur les premiers mois, je commence. Alors, j'ai pas pu faire le tour de tous les bureaux, mais je m'acclimate, je vais voir tous les bureaux et je vous fais un peu un rapport d'étonnement ou un audit un peu complet de ce qui me paraît être des forces, des faiblesses. Enfin, je leur dis, voilà, n'attendez pas qu'en deux mois je vous dise, alors on va faire ça, ça, ça et ça, parce que ça ne peut pas marcher. Il y a forcément énormément de disparités entre tous les cabinets. Il y a forcément une complexité issue de 11 ans de développement en millefeuille où chacun a développé son cabinet en local, mais tout en étant hyper attaché au global. Mais je leur dis voilà. Donc j'arrive, je me mets en mode audit et je regarde tous les projets que vous aviez. Parce que, c'était une boîte à idées. Alors, c'était génial, ils avaient plein d'idées, mais ils n'avaient pas forcément la méthode ou les outils pour... ça dépend, sur LexAvoué Formation qui est devenu aujourd'hui Elix Academy, ils l'ont lancé 2 ans avant mon arrivée et ça a cartonné. Mais en fait, ils avaient plein d'initiatives, mais ils ne savaient pas comment les prioriser, comment...
Et je suppose que du coup, les projets n'avançaient pas comme ils devraient avancer.
Oui.
Il n'y avait pas de feuille de route ou de roadmap précise.
Puis il n'y avait personne pour les driver à 100%, puisque chacun était enseveli avocat. Dans ses dossiers et avocat. Et ça, c'est toujours le problème du développement, c'est qu'un avocat n'a pas le temps, en fait. Non seulement pas le temps de développer, et en plus n'a pas appris dans son parcours académique à la méthodologie pour développer une entreprise. Donc forcément, il apprend sur le tard, mais il a peu le temps de le faire, et du coup, il se retrouve à avoir plein d'idées, mais pas savoir comment les actionner. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des projets. C'était marrant parce que j'étais encore en période d'essai. Ils étaient sur un projet, ça faisait 1 an et demi qu'ils travaillaient dessus.
etc. Et j'arrive, j'ai fait un petit business plan et j'ai dit, bah, alors en fait, je pense qu'il ne faut pas le faire parce que bah, en fait, c'est un business trop éloigné de nous, capacitaire. Enfin, bah, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, je leur ai dit, désolé, mais ma préco, c'est de ne pas le faire. Et je me suis dit, merde, il y a quand même des associés qui vont. Et en fait, non, ça s'est hyper bien passé, tout le monde a compris. Et justement, ils m'ont dit, bah, merci de nous l'avoir dit parce qu'on aurait pu se lancer dedans et alors, ça aurait peut-être marché. Mais en tout cas, je pense qu'on avait mieux à faire que ça à ce moment-là. Et
ce qui est déjà un gage de confiance fort, parce que tu vois, nous, on a travaillé à peu près avec 600 cabinets d'avocats sur la place. Le nombre d'associés qui écoutent ce que j'appelle moi des services associés, pas des services support, des personnes qui ont un titre de C-level au sein d'un cabinet d'avocats, franchement, je les compte sur la moitié des doigts d'une main. Et donc, ça veut dire que dès que tu arrives, en fait, tu fais suffisamment bonne impression, ils ont suffisamment confiance en tes qualités et tes capacités pour ne pas aller là où tu leur dis de ne pas aller. Ouais. Et ça, je trouve que c'est fort dès le départ.
Bah, ouais, ça m'a vraiment conforté tout de suite de me dire, OK, il y a une relation de confiance. Je l'avais senti pendant les entretiens, je l'avais senti pendant la discussion au moment de signer le contrat. Et je me suis dit, bah, j'ai l'impression, et je leur avais dit, il va falloir me faire confiance, comme moi je vous fais confiance sur la compréhension du métier, etc. Mais il va falloir me faire confiance. Et en fait, ça a tout de suite été le cas. Et vraiment, moi, j'ai animé un séminaire 3 semaines après mon arrivée. En gros, chez Elix, on fait 3-4 séminaires avec tous les associés tous les ans pour discuter des projets de développement, embarquer tout le monde. Et au bout de 3 semaines, je me suis retrouvé à présenter déjà ce que j'avais compris en 3 semaines, à leur dire où à mon sens fallait aller, où à mon sens fallait pas aller. Il y avait une écoute qui était inouïe parce que je me suis dit, j'avais peur que. C'était pas l'image qu'il y avait des cabinets d'avocats, mais de me dire, voilà, je les connaissais pas tous, je les avais tous rencontrés parce que j'ai quand même fait un entretien avec les 35 associés en même temps pendant le recrutement. Donc c'est la première fois que je fais un entretien avec 35 personnes face à moi, un entretien d'embauche, mais qui s'était hyper bien passé. Et au moins, ça m'a permis de voir un peu, de sentir. Je suis quelqu'un d'assez. Tactile, dans le ressenti, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de parler avec eux, comme beaucoup de gens, mais c'est hyper important pour moi ce qui se dégage des gens. Et j'avais senti qu'il y aurait cette confiance-là, et je m'en suis rendu 3 semaines après, quand on a fait le premier séminaire auquel j'étais, qu'il y avait une confiance, puis qu'il y avait une envie, quoi. Il y avait vraiment un truc. Bon, ça vient aussi, je fais un aparté très rapide, mais Elix, anciennement Elix Avoué, s'est créé sur. Un traumatisme entre guillemets qui est la disparition de la profession d'avoué et du coup
en 2007 si je ne me trompe pas
2008 enfin 2008. 2008 l'annonce et 1er janvier 2012 tous les avoués deviennent avocats donc ils passent de 300 avoués avec un monopole ou 300 études je ne sais plus avec un monopole sur la procédure d'appel avec un tarif quelque chose d'hyper bordé à 70 000 avocats dans un environnement concurrentiel hyper différent beaucoup plus dense beaucoup plus complexe. Et voilà, et les associés fondateurs de l'Elix Avoué à l'époque avaient quand même un esprit entrepreneurial parce qu'il y a les avoués qui ont pleuré, les avoués qui étaient proches de la retraite et qu'ont récupéré l'indemnisation qui a été négociée avec le ministère de la Justice, qui se sont dit je déroule et voilà. Ceux qui se sont recroquevillés, entre guillemets, et je peux comprendre, c'est pas évident, en se disant je vais essayer de faire tourner comme je peux ma petite boutique. Parce que je vais quand même continuer à faire de la postulation, etc. Et l'ex-avoué qui dit non, mais les avocats, de toute façon, ne maîtrisent pas bien la procédure d'appel aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas formés pour, puisqu'il y avait des avoués qui le faisaient. Les gros cabinets parisiens vont toujours avoir besoin avec la TLA de postulants partout en France et d'avoir des postulants à haute valeur ajoutée qui maîtrisent la procédure sur le bout des doigts. Ils vont continuer à avoir besoin de nous. Et finalement... les avocats se rendront compte qu'il vaut mieux continuer à déléguer la procédure d'appel à des spécialistes plutôt que de la gérer, de se casser les dents dessus, etc. Donc, ils ont eu cette intuition-là. Ils se sont dit, on y va, on se réunit. J'étais pas à l'époque, mais apparemment, il y avait une effervescence. Ils se voyaient tous les mois. Et ils ont lancé une success story, comme il faut le dire. Il faut les féliciter. Quoi. Ils ont créé un truc de... Génial.
Moi, il y a 3 indicateurs qui me posent question dans la conversation qu'on a depuis tout à l'heure. Tu m'as dit qu'il y avait 70 avocats au sein du cabinet et 150 personnes. C'est des ratios qui sont hauts pour moi, d'avoir 80 personnes qui ne sont pas avocats au sein du cabinet. Donc, j'aimerais bien que tu puisses répondre après.
On a 35 associés et 70 avocats, donc 35 collaborateurs, donc un leverage de 1 par associé. Ça aussi, ça me pose question. Et le troisième indicateur, c'est par rapport aux 23 bureaux. Comment tu fais, par exemple, quand tu arrives au bout de 3 semaines pour faire un séminaire et comprendre la réalité locale de chacun des cabinets, des antennes de LX Avocats?
Alors, première question, le ratio, il est élevé en termes de personnel support versus avocat pour plusieurs raisons. C'est qu'on a quand même, on gère énormément de dossiers. Aujourd'hui, je pense que les deux tiers de notre chiffre d'affaires, c'est la procédure d'appel. Et sur la procédure d'appel, il y a quand même un certain nombre d'actions, comment dire, mécaniques ou qui nécessitent finalement des bras. Okay. Mais des bras qui... des assistants juridiques, hein, globalement, qui ont quand même une formation juridique, mais qui sont capables de faire ce qu'on appelle de la manutention de dossier. Alors, il n'est pas physique, mais enfin, le dossier, un dossier d'appel, il peut durer plusieurs années, il bouge, il faut suivre les délais, il y a énormément de relectures, il y a énormément de points à surveiller, etc. Et ça, il faut quand même des équipes support derrière pour que l'avocat ait le temps, lui, de se concentrer sur la prestation intellectuelle, on a de plus en plus de dossiers de plein exercice, donc sur les plaidoiries, sur les conclusions, et aussi sur la stratégie procédurale, finalement. C'est ça la valeur ajoutée de LX sur la partie procédure. Ce que je dis souvent, c'est que LX, c'est le Sherpa de la procédure, en fait. Il y a un côté un peu... on va accompagner soit des avocats, mais même parfois des entreprises sur ces sujets-là. On va les accompagner vraiment pour identifier des points de procédure qui vont permettre vraiment de faire avancer le dossier, de gagner hein, sur des sujets de procédure ou de pas perdre sur des incidents, etc. Donc ça, c'est la vraie valeur ajoutée. Mais pendant cette haute valeur ajoutée est produite par l'avocat, il faut du personnel assistant qui fait tourner le dossier et qui le vérifie. Et aidé par la technologie, évidemment. Mais voilà pourquoi ce premier ratio. Okay. Deuxième ratio... de 35-35. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a des petits cabinets dans les petites cours d'appel où des associés n'ont pas de collaborateurs. Donc, du coup, il y a quand même c'est une moyenne. Après, il faudrait faire plutôt un écart type. Donc, il y a déjà ça. Et il y a aussi, je pense, qu'on est dans un cabinet où les associés aiment bien être à la production, en fait.
Ok.
Et du coup, c'est ça une raison aussi, c'est qu'ils aiment bien être à la production. Et troisième raison, c'est que, et ça c'est plutôt positif pour les collaborateurs, c'est contrairement à d'autres cabinets, si tu es un bon collaborateur chez LX, que tu t'investis dans le développement, il y a quand même un parcours d'association qui est possible et t'as pas forcément à attendre qu'un associé s'en aille des années, parce que tu vois, le ratio fait que. Si t'es bon, entre guillemets, on te proposera à un moment ou à un autre l'association. Ce qui n'est pas le cas dans des énormes cabinets où tu peux rester assez off-consell, mais après, voilà, c'est moins évident.
Okay.
Donc, c'est plutôt positif. Et ta troisième question...
c'est comment est-ce que tu fais pour prendre en compte, j'avais oublié aussi, comment est-ce que tu fais pour prendre en compte les réalités de la région?
Oui, au bout de trois semaines.
Ouais.
Alors forcément, on n'est pas magicien. Hein. Au bout de trois semaines, j'ai pas une vision complète. En tout cas, au bout de trois semaines, j'essaie de... Déjà, je fais pendant ce séminaire-là qui était à Paris, je fais beaucoup parler les associés pendant ce séminaire pour aussi, moi, continuer à capter de l'information. Et j'essaie de leur présenter... En fait, c'était plus j'essaie de leur présenter la méthode de travail et mes premières intuitions stratégiques que j'ai. Voilà, c'est plus ça. Et c'est au séminaire de septembre à Nîmes, que je leur ai présenté vraiment une vision stratégique, que j'ai fait adopter la vision stratégique à 3, 5, 10 ans. Qui est évolutive évidemment, mais donc c'était plutôt en deux temps. En mars, c'était un peu de méthode et des intuitions. Et en septembre, c'était, je vous présente un peu je me rappelle, ils me ressortent toujours des concepts qu'ils adorent, genre océan rouge, océan bleu, enfin des trucs comme ça. Ça les fait beaucoup rire. Je mets des petits poissons, des petits requins sur mes slides, ça les faisait rire. Donc ça s'est fait un peu en deux temps et je pense que c'est vraiment Nîmes a été assez en septembre, 6 mois après mon arrivée, a été vraiment le moment un peu où ils se sont dit ah oui, ok, on va vraiment mettre en place une stratégie d'entreprise, quoi. Et,
Il y a un binôme de droit à la direction de LX Group, si je ne me trompe pas. Il y a un président qui est avocat et toi qui as le rôle de DG au sein de ce groupe. Ouais. Comment ça a été accepté par les autres avocats? Je comprends, si tu veux, qu'il y ait des initiatives individuelles où, en fait, il y a un avocat qui est visionnaire au sein du cabinet et qui dit « Il nous faut un mec qui n'est pas avocat, ou un mec, ben non, qui n'est pas avocat, qui va pouvoir nous porter, qui va pouvoir nous aider parce que ce n'est pas notre métier. » Mais il y a toujours, j'entends, je rencontre toujours des gens comme ça, mais derrière, pour faire adhérer la masse, en tout cas la masse des autres avocats du cabinet, c'est toujours compliqué. Comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est fait de manière assez en douceur. Non pas qu'il y avait un rejet, mais il fallait faire de la pédagogie, je pense, pour le faire. Effectivement, quand je suis arrivé, j'étais directeur de la stratégie du développement. Moi, j'ai pris conscience assez vite qu'avec la structure du cabinet, j'allais travailler bien au-delà de ce périmètre, parce que sinon, j'aurais fait de la stratégie dans une roue de hamster et personne l'aurait. Enfin, il n'y avait pas les ressources pour derrière les actionner. Enfin, bien sûr, il y a les ressources, mais les ressources avocats, mais il fallait les accompagner pour actionner ensuite la vision stratégique. Donc, je me suis rendu compte qu'il allait à un moment falloir refondre la gouvernance. Et du coup, c'est l'année dernière où j'ai réfléchi un peu, fin d'année dernière, je pense. Fin 2022. Où j'ai commencé à drafter. Et en fait, je trouvais que le problème de la gouvernance, c'est qu'il y avait donc un président, deux directeurs généraux et moi, mais il n'y avait pas de répartition du travail entre le président et les deux DG. Et du coup, c'était vraiment le président et les deux DG, mais comme dans les boîtes, quand tu crées une SAS, c'est que tu mets un président, deux DG, etc. Quoi. Et du coup, je voulais aussi rescinder un peu le travail des membres avocats du comité de direction. Et moi, pouvoir être plus dans l'opérationnel et pouvoir vraiment mener le business du cabinet. Bon, en fait, j'ai fait de la pédagogie, j'ai fait des organigrammes, j'ai expliqué un peu quel allait être le rôle de chacun. Du coup, le président qui change tous les 3 ans, il y a quand même aussi, c'est assez collégial. Hein. La nouvelle gouvernance, donc il y a un président, moi en tant que directeur exécutif. Et après, deux vice-présidents. Un sur plus les sujets que j'appelle régaliens aux côtés du président et un plus sur les sujets projets avec qui je vais travailler pour développer les nouveaux projets. Voilà. Et après, il y a deux autres membres dans le comité de direction qui sont la directrice de Helix Academy, Emmanuel Vajoux, et le directeur du lab. Voilà. Donc, je commence petit à petit à créer un board avec innovation, formation, projet. J'ai pas trouvé le nom, mais régalien, vie juridique du groupe, et avec finalement une direction bicéphale avec Jérôme Leroy, qui est le président actuel, et moi-même. Et là, vraiment, on se partage, on travaille ensemble sur la vision stratégique. Bon, évidemment, c'est moi qui produis avec mon équipe les analyses, mais ensuite, derrière, on la construit ensemble, on la valide en comité de direction, et ensuite, je travaille avec les différents membres du comité de direction pour. Donner les impulsions, donner le cadre pour ensuite avancer.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu as réussi là où beaucoup de gens se sont plantés, peut-être parce qu'ils n'étaient pas dans les bonnes structures, c'était peut-être pas les bonnes personnes, c'était pas le bon moment, peu importe les raisons, on ne cherche pas de coupables et de vainqueurs ou quoi que ce soit, mais tu as réussi finalement à scinder les rôles et à définir des compétences à chacun. Ou en tout cas, vous avez réussi ensemble plutôt à définir des compétences et des rôles à chacun. Et ça, je trouve que c'est assez incroyable parce que tu vois dans des cabinets d'avocats, des très beaux cabinets, on ne va pas les citer, mais il y a des directoires, il y a des comex, donc en gros des choses qu'on a pris aux entreprises traditionnelles, qu'on a appliquées au sein de cabinets d'avocats, ce qui était une réelle révolution lorsqu'on l'a mis en place. Mais derrière, en fait, on ne leur a pas donné de sens, on ne leur a pas donné de guidelines, on ne leur a pas donné d'autonomie, on ne leur a pas donné de responsabilité. Et ce que je comprends à travers tes mots, c'est que vous avez réussi à le faire.
Oui, alors ça a mis du temps, ça a été progressif, c'est-à-dire que j'ai par petites touches, j'ai amené des évolutions pour en arriver aujourd'hui à cette nouvelle organisation qu'on a sortie en même temps que la transition de marque. Donc, je trouvais que c'était pas mal, parce qu'en termes d'impulsion, on changeait de nom, on changeait de gouvernance. Enfin, il y avait un truc un peu dynamique qui se passait bien. Et je pense qu'on revient toujours sur la confiance, en fait. C'est que j'ai la chance d'être entouré d'associés, d'avocats associés qui me font confiance, en fait. Et qui me disent, il y a certains qui vont être très engagés, qui vont avoir compris la mécanique, on dirait c'est génial, ça va nous aider à atteindre vraiment nos objectifs. Puis il y a d'autres qui vont être un peu plus éloignés de la stratégie d'entreprise parce que dans leur dossier, ils vont dire on te fait confiance, donc on n'a pas forcément tout compris parce que c'est pas dans notre ADN, mais c'est pas grave, on te fait confiance. Et si tu dis que c'est ça qu'il faut faire, Tu nous l'as expliqué et on le fait, quoi.
Très chouette. Quelle est la tête que tu as faite lorsque tu t'es penché sur les chiffres et notamment les informations que tu avais sur les outils utilisés par le cabinet? Parce que nous, on a souvent ce problème-là. Quand on va extraire de la donnée, majoritairement d'ailleurs financière, elle n'est pas catégorisée, on n'est pas en capacité, avec les chiffres qu'ils peuvent avoir, ou même eux de leur côté, de pouvoir regarder les niveaux de rentabilité qu'ils peuvent avoir par centre de profit. Les centres de profit eux-mêmes n'existent pas ou ne sont pas catégorisés au sein du cabinet. C'est quoi la tête que tu as fait quand tu as vu ça?
Alors, comme on est filmé, je peux faire la tête et après décrire la tête que j'ai fait. J'ai dû faire une tête étonnée.
Ouais.
J'ai eu le souffle un peu court et je me suis dit, ah oui, il y a un peu de boulot. Et nous, en plus, enfin, il y a 23 PNL, donc 23 comptes de résultats, donc de la donnée avec 23 experts comptables qui travaillent de 23 manières différentes. Enfin, un peu moins, puisqu'il y a certains bureaux qui sont
regroupés,
mais. Et en gros, en fait, la donnée est complètement morcelée. Donc ça, c'est forcément, ça rajoute une difficulté pour avoir une vision d'ensemble. La donnée client comme la donnée financière est très très morcelée. Donc oui, bien sûr, j'ai fait une tête un peu. Enfin, je m'en suis rendu compte assez vite. Enfin, j'ai pas été si étonné que ça. Je me doutais quand même que c'était pas dans l'ADN des avocats que des cabinets d'avocats d'avoir une data
clean.
Ouais. Mais après, c'est pas les seuls, hein, que les choses soient bien claires. Il y a quand même beaucoup d'entreprises où les data sont. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un énorme chantier. Et je me suis dit, je me suis retroussé les manches. Et puis, je me suis dit, on va y aller. Alors, ça a mis du temps. Là, on vient de finaliser vraiment la refonte totale de notre CRM. Où là, on a vraiment.
Ah, vous avez un CRM?
Oui, on a un CRM.
Ok.
On a un CRM, on a aujourd'hui 42 000 contacts. Ce qui est quand même
plutôt... Ils sont partagés entre les différents avocats
Alors, qui sont, oui, qui sont partagés entre les différents avocats, mais évidemment, pour des raisons de confidentialité, on n'a pas les données des dossiers.
Oui, évidemment, bien sûr. Mais en tout cas,
aller au CRM. Et voilà, et c'est moi qui ai accès, je suis finalement au groupe, enfin, c'est le groupe qui a accès à toutes les données. C'est-à-dire on donne pas, enfin, on essaie de quand même voilà, catégoriser, mais en gros, moi, ça me donne une vision d'ensemble du parc. Donc, désolé, on parle de parc, mais c'est pas de voilà, une vision d'ensemble
des clients,
clients de notre et ce qui est intéressant, c'est que là, on a réussi. Moi, ce que je veux dans la donnée client, c'est comprendre vraiment les besoins des clients. C'est pas juste avoir une liste d'adresses mail à qui je vais envoyer des infos. Enfin, voilà, si je commence à envoyer à une cliente particulière une formation autour de la procédure d'appel,
il va se dire c'est qui
cette personne, mais pourquoi il met pourquoi voilà. Alors là on a l'impression qu'on est vraiment au niveau basique du CRM, mais forcément dans les cabinets d'avocats c'était un peu ça, il s'est pas qualifié, on sait pas,
etc. Non, mais c'est les sujets de tous les cabinets d'avocats, enfin c'est basique, mais en fait si on n'a pas ça, on n'a rien d'autre.
C'est ça. Et du coup là derrière aujourd'hui pour nos clients avocats, je connais leur matière, donc je peux leur proposer des formations adaptées, je peux leur proposer même du contenu adapté, gratuit. Enfin, on écrit beaucoup. Du coup, dans l'Académie Elix, on a à la fois la formation, mais on a beaucoup d'auteurs qui rédigent en direct pour notre newsletter, mais qui rédigent aussi pour Dalloz, pour Lexis, pour la Gazette du Palais, enfin, etc. Donc, on produit aussi du contenu. Donc, quand on fait un contenu en droit social, j'essaie de l'envoyer aux avocats en droit social. Pour ça, j'ai besoin de savoir qui est avocat en droit social. Et après, j'ai aussi besoin de savoir qui confie des dossiers, à quel volume, qui confie moins de dossiers pour contacter le client, lui dire il y a moins de flux, est-ce que il y a quelque chose qui se passe mal, ou est-ce que comment on peut faire pour continuer à mieux vous accompagner. Enfin voilà, donc ça ça y est, c'est bon, c'est fait. Ça a mis 4 ans,
mais c'est un travail qui est colossal, c'est ce que j'allais dire, c'est prendre des années et des années.
Et là on travaille vraiment avec des bons outils, ça c'est chouette parce que je suis bien accompagné aussi sur ces sujets là et là on a aussi il y a des startups qui font vraiment des trucs super, je vais faire de la pub, mais qui arrivent vraiment à aller capter de la donnée propre tout en respectant bien sûr l'RGPD et toutes les normes. Et on arrive vraiment aujourd'hui à avoir des données. On a un outil qui va quand même taper dans LinkedIn pour mettre à jour notre CRM quand quelqu'un change de poste, quand quelqu'un change de cabinet.
Des outils un peu comme Drop Contact ou
les
noms, hein, franchement. Des
outils Drop Contact, on l'utilise pas encore parce que on fait des tests. Le CRM il est sur Pipedrive, je peux le dire. Et on utilise un outil qui s'appelle Anaba, qui va en fait finalement lire pas les emails, mais qui va capter de la donnée, qui va finalement lire les signatures mail.
Attends, tu utilises Anaba plus PipeDrive?
Ouais, qui sont connectés ensemble en fait. Okay. Anaba se déverse dans PipeDrive en fait. Donc là on rentre un peu dans la technique, mais en gros Anaba va lire uniquement, tout est hyper sécurisé, hein, je rassure tout le monde, va lire uniquement la signature mail de nos interlocuteurs avec qui on a des échanges, et va aller mettre à jour PipeDrive en disant tiens, monsieur machin, il était maître Durand, il était chez cabinet X, maintenant il est chez cabinet Y. Donc, automatiquement ça met à jour parce qu'il a détecté dans l'adresse de dans la signature qu'il y a eu un changement.
Et c'est ce qu'on appelle des systèmes OCR pointés, c'est ça. En gros, on va reconnaître la donnée, mais on la pointe à un endroit, ça va être au niveau de la signature.
Voilà. Et derrière, et ensuite, une fois qu'on a la base, ça va dans LinkedIn, ça va surveiller LinkedIn en permanence, et aussi ça teste les adresses mail sans envoyer de mail, ce qui permet de cleaner la base en disant bah, cette adresse mail n'existe plus. Et ça, on n'est pas obligé de comment on envoie d'un emailing, de regarder un peu qui on a reçu de mails non délivrés.
Enfin, très clair.
Aujourd'hui, voilà, et c'est cool de pouvoir qu'ils aient confiance aussi dans ces outils qui sont très puissants et qui permettent, enfin, avant tout, de mieux comprendre le client et de mieux le servir. Parce que finalement, un client qui adore notre newsletter, il change de cabinet. Bah, si on va être capable de le savoir, de lui dire est-ce que tu veux toujours t'abonner à la recevoir, et on va être proactif. Donc, et même pour dire la félicitation, on a vu que vous avez changé de cabinet, ou pas, ça dépend, on regarde, mais il y a plein de choses de savoir un peu ce qui se passe, de suivre un peu ce qui se passe dans notre secteur. Enfin, c'est
important. Est-ce que tu as mis en place des indicateurs de performance pour être en capacité de montrer de façon objective aux avocats avec qui tu travailles, ou même pour qui tu travailles, quelle était ta valeur ajoutée?
Oui, alors ça.
Moi, je fais une petite aparté avant que tu puisses répondre. Ça, c'est quelque chose que je trouve essentiel. Moi, j'ai beaucoup de directeurs marketing, de DRH, de responsables des opérations au sein de cabinet qui me voient et me disent mais ils ne comprennent pas ce que je fais, ils ne comprennent pas à quoi je sers. Je dis si tu leur montres pas, ils ne comprendront jamais. Et l'indicateur de perf, pour moi, c'est un bon moyen de montrer le résultat. Ça fait pas, ça permet pas d'éviter la pédagogie qui est quoi qu'il arrive nécessaire, oui, oui. La confiance qui est nécessaire. Mais l'indicateur de perf, c'est pour moi la clé.
Alors, il y a plusieurs choses. J'ai mis en place des KPIs assez rapidement, mais avec la donnée que j'avais. C'est-à-dire que du coup, j'étais un peu limité par la donnée. Mais clairement, sur le centre de formation, l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution de la rentabilité en ayant automatisé un certain nombre d'actions qui, à la fois, permettent de mieux servir le client, puisqu'il il réceptionne tout, son attestation, ses contrats, sa convention en temps réel, tout est automatisable et c'est sécurisé. Ça, bah, typiquement, c'était assez simple. En fait, sur les filiales, c'est assez simple. On part de zéro. On a choisi un peu les outils qu'on utilise sur les filiales. Donc, globalement, j'arrive assez rapidement à avoir des KPIs financiers. Sur le métier d'avocat, plus compliqué puisqu'il y a 23 bureaux regroupés dans 16 structures. Et il est parfois difficile de savoir quel est l'impact groupe versus l'impact local, versus l'impact du ralentissement de l'activité d'une cour d'appel, etc. Donc, là, moi, j'essaie de faire un data lake pour avoir toutes les données. J'ai jargonné là, j'ai perdu tout le monde avec un lac de données. Mais d'avoir toutes les données financières qui arrivent au même endroit pour être capable derrière de piloter la marge, hein, ça reste une entreprise, de vérifier qu'on est rentable, de vérifier que le chiffre d'affaires continue à croître, de vérifier sur quelle matière on est les mieux positionnés pour pouvoir mettre l'accent sur tel ou tel sujet, de développer d'autres services. Je suis plus sur ces sujets-là, sur des critères, des KPIs, des indicateurs qualitatifs. Donc, on fait des enquêtes clients, donc de voir la satisfaction client sur des innovations juridiques, de suivre un peu tout ce qui est communication, c'est plus facile pour avoir l'évolution des interactions qu'on peut avoir aujourd'hui sur notre compte LinkedIn avant-après, de voir cette évolution-là. On a des outils, je traque tout ce qui est sur le site internet, sur les fiches Google My Business, l'évolution
du nombre d'appels, du nombre de visites,
du nombre de recherches, de voir un peu, donc il y a vraiment cette partie plus communication marketing où c'est pas très compliqué. Il y a la partie filiale où c'est facile, il y a la partie chiffre d'affaires des cabinets où c'est plus compliqué de définir ce qui vient de l'impulsion groupe, de ce qui vient du local. Mais là, typiquement, là, j'ai vraiment beaucoup d'indicateurs sur la transition de marque. Sur la transition de marque, j'ai mis en place énormément d'indicateurs pour leur dire, parce qu'il y avait vraiment
une peur.
Hein, enfin, quand on change de marque, il fallait beaucoup de pédagogie. Et là, on se rend compte que finalement, parfois, les clients sont allés plus vite que nous, en fait. C'est-à-dire que, parce qu'il y a eu un décalage entre le changement de nom commercial et le changement de dénomination sociale. Et on s'est retrouvé avec des clients qui écrivaient à Helix Group, alors que les changements de dénomination sociale s'est fait quelques semaines après. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, on a tellement fait une com un peu différenciante sur les bons canaux. Enfin, vraiment, je pense que ça a bien fonctionné. Que du coup, on se retrouve. Enfin, les choses ont bien pris. Donc, finalement, j'ai des stats sur quel est le pourcentage de gens qui écrivent sur lx.legal, sur les adresses email lx.legal versus lexaway.com. Bien sûr, on les reçoit toujours sur lexaway.com, mais je vois l'évolution, je vois que ça augmente rapidement. Je sens bien les interactions qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc, ça, voilà, ça, c'est facile. Après, mon objectif, c'est vraiment là de mutualiser, d'avoir vraiment un tableau de bord plus financier pour vraiment un peu flécher. Et là, on a pas mal de projets de diversification qui vont sortir plutôt en 2024. Et là, on va vraiment pouvoir voir l'impact qu'a une stratégie pensée, réfléchie et actionnée.
C'est très chouette. J'ai deux dernières questions parce que je t'ai déjà cuisiné.
Mais non, tu cuisines-moi.
ma dernière question, elle est un peu plus personnelle, mais elle est liée à X-Group et tu vas vite comprendre. Aujourd'hui, tu as des fonctions qui sont extrêmement importantes au sein du cabinet. Tu fais partie des têtes pensantes et des bras avec un cerveau du cabinet. Tu ne pourras jamais faire plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne pourras pas être associé au sein de la structure, en tout cas en l'état actuel du droit. C'est extrêmement compliqué. Est-ce que ça, ce n'est pas frustrant? Parce que quand on parle, par exemple, de directeurs, au bout d'un moment, il y a des directeurs dans les entreprises traditionnelles qui montent, il y a des fonds private equity qui les identifient, ou tu as des fonds de LBO qui vont les identifier, et derrière, ils vont être, désolé, c'est un jargon aussi, mais incentivés au résultat par des management packages, par un certain nombre d'actions qui vont leur être données. Finalement, ton travail ne sera plus simplement, ton travail, en plus de la rémunération que tu as au quotidien, sera aussi un travail de patrimonialisation que tu vas aller chercher. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que c'est un frein pour toi?
Non, enfin, aujourd'hui, ce n'est pas un frein. C'est une question que je me pose, parce que je pense qu'elle est légitime et qui est partagée avec...
Si tu m'avais dit que ce n'était pas vrai, je ne t'aurais pas peur.
Qui est légitime et qui est partagée avec l'ensemble des associés du groupe, avec le comité de direction. Clairement, on travaille aujourd'hui sur des mécaniques d'association, mais dans le respect du cadre légal, donc sur les filiales, sur d'autres choses. Donc, je ne suis pas inquiet dans le sens où... de toute façon, la vie... voilà, j'ai encore 30 ans au moins de carrière devant moi, donc il va se passer plein de choses. Donc, en soi, oui, j'arrive aujourd'hui à un poste. En termes de titre, effectivement, je ne peux pas faire beaucoup plus dans ce cabinet. Clairement, voilà. Après, il y a les options. Quelles sont-elles? C'est justement de faire grossir, de transformer ce cabinet avocat en entreprise de services juridiques en développant des nouveaux services adjacents au métier d'avocat, mais qui restent des services juridiques. Et là, ça devient un job d'entrepreneur, de patron de business unit. Et ça m'intéresse, parce que j'ai cette fibre entrepreneuriale. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de devenir avocat, mais là, ça me paraît être un parcours un peu plus long, donc c'est pas du tout à l'ordre du jour. Et puis la troisième possibilité, la vie est aussi faite d'opportunités, de rencontres. Donc le jour où j'aurai l'impression d'avoir apporté tout ce que j'ai à apporter à ce cabinet et que j'aurai d'autres envies, etc., je ne sais pas si ce sera le cas, hein, peut-être que dans 30 ans, je serai encore DG du groupe de la multinationale Helix. Mais voilà, vraiment, et ce qui est simple, ce qui est bien, c'est qu'on est une transparence complète chez Helix, et aujourd'hui j'y suis très bien, je m'entends hyper bien avec tout le monde, j'ai envie de grandir avec eux, j'ai envie qu'on continue l'aventure, qu'elle dure encore 3 ans ou 30 ans, j'en sais rien, mais je suis pas inquiet.
Très clair. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite chez Helix Group?
Chez Helix, on peut me souhaiter... qu'est-ce qu'on peut me souhaiter?
À toi et au cabinet,
évidemment. Oui. Ce qu'on peut nous souhaiter collectivement, c'est de, de lancer, d'actionner tous ces projets qu'on est en train de cadrer en 2024-2025 et qui deviennent des réalités opérationnelles. Et ce qu'on souhaite, c'est que voilà, en 2025, dans le monde du droit, on disait la LX, c'est vraiment un cabinet singulier parce qu'il fait. Il a compris mon besoin et il me propose quelque chose d'hyper différent des autres. Et ouais, ils sont innovants, mais au bon sens du terme. Enfin, j'ai envie voilà, qu'en 2025, sur le marché du droit, on dise. Moi, je pense être quelqu'un d'un peu singulier. Alors, c'est pas du tout. Enfin, on est tous singuliers, tu vois, mais je pense être. Je fonctionne beaucoup à l'affect, je fonctionne beaucoup aux rencontres, je fonctionne beaucoup à l'émotionnel. Et du coup, j'ai envie, voilà, j'ai envie d'utiliser un peu ça pour apporter, pour que les gens se disent, bah voilà, ouais, Alix, ouais, on n'est pas comme les autres, quoi.
Ouais, t'as pas envie de faire du bullshit à parler de disruption toutes les 3 secondes et finalement rien faire.
Voilà, c'est ça. Et ouais, ce que je nous souhaite, c'est que les 10 prochaines années soient tout aussi à la fois sérieuses et fun que les 10 premières années, les 11 premières années du cabinet, parce que ouais, c'est un cabinet fait de femmes et d'hommes assez exceptionnels, vraiment. Je voudrais aussi leur rendre hommage parce que ils m'ont fait confiance et c'est une super aventure.
Et ben on va s'arrêter sur ces mots. Nicolas, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Franchement, c'est un podcast qui sort de l'ordinaire pour ce qu'on fait habituellement. Et je trouve qu'il éclaire beaucoup sur les mutations et les transitions de cabinet d'avocat en transparence. Et je te le dis franchement, j'espère que tes associés entendront et auront le sourire. Mais j'aurais pas misé sur votre cabinet pour être le premier à prendre ce changement. Parce que nous, pour avoir vraiment les mains à l'intérieur des cabinets d'avocats, il y en a très peu qui sont à ce niveau de transformation et à ce niveau de professionnalisation. Donc moi, je vais suivre de façon extrêmement attentive la suite de Alix Group.
Avec grand plaisir. Merci Valentin.
Avec grand plaisir.
Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.